Bonsoir frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous pour chanter les louanges de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est à moi. Fermez mon cellulaire. Fermez vos cellulaires, pardon. Moi j'étais déjà en mode avion. Non, on sait jamais, tu sais, quelqu'un nous texte. Des fois, M. Perron envoie des courriels pendant les rapports des autres, donc il pourrait aussi bien m'écrire pendant ma prédication. Il dit pourquoi tu as dit ça? Je prends votre chance, modèle. Donc, c'est une grâce de pouvoir élever le nom de notre Sauveur ensemble, d'être en sa présence et se réunir. Donc, c'est un moment fort de notre année hein, pour nous, pour dans notre association, ce rendez-vous printanier. Hein, et c'est un bon temps de l'année, la nature qui renaît, et puis on est regaillardi par nos rencontres, nos échanges. Et donc, vraiment, je bénis le Seigneur de ce qu'il fait au milieu de nous. Et donc, voilà, j'avais déjà à cœur, depuis 10 ans, de vous apporter ce message. Parce qu'il y a 10 ans, à mon église, j'avais prêché une série sur Néhémie. Une série terrible qui fait fuir des gens. Et quand je suis arrivé au chapitre 13, je me suis dit, si un jour je prêche à nos pasteurs ou à une assemblée de pasteurs, il n'y a pas que des pasteurs dans la salle, mais c'était à eux que je pensais. J'ai dit, ça va être Néhémie 13. Donc, mon texte était choisi depuis longtemps. Ça fait déjà 3 années de suite qu'on avait des invités. Ça commençait à coûter cher sur le budget de l'association. Donc, cette année, on s'est dit, on va couper. On va prendre des locaux. Ça va être moins exotique, mais ça va coûter moins cher. Alors, voilà, moi, j'étais prêt à répondre à l'appel avec ce message qui était donc médité en particulier en pensant aux ouvriers de notre association, mais qui s'applique aussi pour tous ceux qui ont à cœur l'œuvre du Seigneur, pour l'Église du Seigneur. Je l'ai prêché quand je suis allé à Montréal il y a quelques semaines pour remplacer le pasteur Perron, donc je m'excuse auprès de Samuel, de Nicolas James, vous allez l'entendre en double, mais je vous avais averti de toute façon que je le prêchais à l'Assemblée Générale, donc vous le saviez, vous aviez juste à pas venir, si vous ne vouliez pas l'entendre 2 fois. Et en fait, quand j'ai lu Néhémie 13, c'est un passage de la Bible qui m'encourage beaucoup. Même si rien ne va plus dans Néhémie 13, c'est la catastrophe. Tout ce que Néhémie a construit s'écroule. Hein, la reconstruction, les murailles tiennent bon, mais le peuple, en tout cas, s'écroule. Et c'est très encourageant pour des ministres de la parole de voir l'échec du ministère des autres. Il n'y a rien de plus frustrant, d'ailleurs, que d'entendre un ministre qui a du succès. On se compare et ça nous écœure, donc, je veux dire, c'est quoi la recette, et puis on... Et donc, moi, j'ai toujours encouragé quand j'entends Spurgeon qui vivait des dépressions, l'insuccès de William Carey pendant des années qui prêche, puis il se passe rien, pas de baptême, il a tout sacrifié, il reviendra pas, et ça marche pas. Calvin qui est renvoyé de Genève, Edwards qui, après des années fidèles de service, on le fout à la porte. Récemment, j'ai lu les mémoires de Tom Carson, c'est édité par son livre, Donald Carson. C'est les mémoires d'un pasteur ordinaire. Et en fait, c'est un peu inspiré, basé sur son journal intime et toutes les épreuves, les temps sombres, les dépressions que le pasteur Carson vivait. Et ça m'encourageait vraiment de lire ça. Pas juste parce qu'on prend un plaisir dans l'échec des autres. C'est vrai qu'il y a un côté de nous qui est comme ça, pour vrai. Disons-le, confessons-le. Hein, il y a même une toune qu'on chante, hein, et que les autres, je ne me souviens plus c'est quoi l'air, là, mais attention, petit gars, tu vas tomber sur quoi là. Le plaisir des uns, c'est de te voir, t'as cassé le cou, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est pas l'échec tellement des autres, mais c'est que ça confirme un peu la normalité. Que l'œuvre de Dieu n'est pas toujours le triomphe. Que le fait que Dieu, que le Dieu Tout-Puissant soit de notre bord, signifie pas que forcément il faut que toujours ça soit le triomphe. Parce que ça pourrait être le triomphe. Ça pourrait être le réveil en tout temps. Hein? Et Dieu étant ce qu'il est, et j'ai écrit le monde ex nihilo in nihilo, alors c'est pas vraiment un problème pour lui, dans son omnipotence à toute puissance, de faire que nos ministères marchent. Je veux dire, rien qui empêche Dieu, Jean, de t'accorder encore plusieurs décennies à vivre pour tenir le fort à Rouyn-Noranda, ou de faire un réveil là, ou de parachuter un envoyé du ciel. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Hein? Et puis de réaliser que finalement, l'œuvre de Dieu se fait de peine et de misère, se fait avec, hein, c'est Spurgeon qui disait, les moulins de Dieu moulent lentement, mais ils moulent finement. Et donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail où on ne voit pas toujours les fruits, on ne le voit pas immédiatement. Il y a des déconvenues. Et c'est pas juste une progression, hein, il y a aussi des régressions, il y a aussi des reculs parfois, des revers. Et donc, c'est pas en raison de la nature de Dieu. Dieu pourrait... ça pourrait toujours être un succès, mais coudonc, Dieu veut les choses ainsi. Donc, de se faire confirmer que des hommes qui ont été plus fidèles que nous, avant nous, des hommes plus grands que nous, dont l'histoire a retenu le nom, et qui sont passés par là, qui sont passés par les découragements, qui sont passés par l'échec, je trouve que c'est encourageant pour nous. Pour nous rappeler finalement que notre petitesse et que nos maigres fruits parfois n'ont rien d'anormal. Et donc on doit tenir bon. Et même Paul dit quelque chose de similaire dans 2 Corinthiens 12, 10. Il dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Notre plus grand ennemi, finalement, c'est une trop grande confiance en nous-mêmes, en nos capacités naturelles. Un ministère qui va bien, et si tout va toujours bien, finalement, on va finir par mettre notre confiance dans les moyens, mettre notre confiance dans la chair, dans ce que nous, on est capable de produire. Et ça prend pas le Saint-Esprit pour remplir une salle, ça prend pas le Saint-Esprit pour faire que les gens se tiennent par la main, passent un bon moment, sont unis, pleurent, donnent des témoignages et que leur vie est changée. L'été et le temps le font. Hein? Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour le faire. Et donc, notre faiblesse, finalement, Paul se plaît dans sa faiblesse et nous devons nous plaire dans notre faiblesse parce qu'elle nous force à nous appuyer sur le Dieu Tout-Puissant. À lui faire confiance pour les résultats. On n'est pas appelé donc à prendre en charge les résultats, ils lui appartiennent. Nous, notre travail, c'est de semer, c'est d'être fidèle à notre tâche, et donc de ne pas chercher à avoir du succès, mais à être fidèle à l'œuvre. Et donc, notre faiblesse, notre détresse nous force à dépendre de lui. Et il nous mène jusqu'à l'extrémité, mais sa grâce est suffisante. Il va nous donner ce qu'il faut pour finir le chiffre. Alors, je réalise que j'ai d'autant plus besoin de ce genre de réflexion, méditation pour continuer l'œuvre chrétienne. J'ai commencé le ministère il y a une douzaine d'années, à commencer à prêcher, commencer à prendre des responsabilités pastorales, et on rentre dans l'œuvre du Seigneur avec plein d'idéalisme, en pensant que ceux avant nous ont pas fait, s'ils n'ont pas connu autant de succès que ce qu'on est appelé à avoir, ben c'est parce qu'ils connaissaient pas grand chose. Et donc on rentre avec l'idéalisme et de l'arrogance. Et à un moment donné, l'idéalisme se frappe à la dure réalité de l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous humilie. Et il y a un danger qu'on ne devienne pas juste, on ne passe pas simplement de l'idéalisme au réalisme, mais de passer aussi du réalisme au cynisme. À ne plus espérer, ne plus les idéaux qu'on a au début d'une vie chrétienne et d'un ministère chrétien, on les a longtemps oubliés, puis on ne croit plus à grand-chose. Et c'est réellement un danger. L'enthousiasme qui non seulement s'éteint, mais qui fait place à la lassitude, lassé, découragé. Tanné de servir. La foi qui semblait vouloir déplacer les montagnes, qui non seulement fait place au doute, mais à l'incrédulité, où on doute même de la fidélité de Dieu. On le questionne. Alors voilà le genre de combat que je réalise, le genre de démon auquel j'ai à faire face. à certains moments dans l'œuvre du Seigneur. Et donc, pour survivre au ministère et à la vie d'Église, ça nous prend, oui, une bonne dose de réalisme, mais il faut aussi persévérer avec les moyens ordinaires de grâce, qui vont accomplir des choses extraordinaires. Et donc, c'est comme ça que j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Néhémie, qui est un bonhomme extraordinaire, qui est un pasteur, réellement, qui est un leader, qui est un réformateur. L'histoire de Néhémie se passe autour de 445 avant Jésus-Christ. Donc, on est 141 ans après que l'exil ait commencé. Donc, Néhémie vient tardivement. La fin de l'exil a eu lieu. Le peuple a déjà commencé à retourner sous l'autorité des Mèdes et des Perses vers Jérusalem et la Judée. Le temple a déjà été rebâti au temps de Néhémie. On est environ 71 ans après la reconstruction du temple qui se serait achevé vers 516, 70 ans après le début de l'exil. Néhémie, à cette époque-là, donc, lui, il ne fait pas partie des Juifs qui sont retournés, toujours dans la diaspora. Il est né, donc, dans ce contexte de diaspora, de ce qui reste de l'exil, dans, donc, le territoire des Mèdes et des Perses. Il est échanson du roi perse Artaxerxès. Et il va se rendre à Jérusalem pour aider à rebâtir, entre autres, la muraille, parce que la ville est encore dans un état assez lamentable. Il y a encore des ruines qui sont là lorsqu'un rapport lui est fait de frères qui arrivent de voyage de là. Et donc, l'histoire de Néhémie, c'est un homme donc, qui a à cœur le peuple de Dieu, la ville sainte, et qui demande donc la permission à son roi d'y retourner. Et il va devenir gouverneur pendant une douzaine d'années, gouverneur de Jérusalem et du peuple juif pendant une douzaine d'années. On peut évaluer avec à peu près les dates du roi Artaxerxès qu'il nous a donné, mais aussi il est dit explicitement au chapitre 5, au verset 14, il dit « Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à les 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. » Donc, je n'avais pas réalisé que je mentionnais que ça faisait une douzaine d'années, donc il y a quelque chose qui correspond aussi en termes de passage des ans avec le temps que j'ai passé dans le ministère. Néhémie, donc, a fait ces 12 ans. Et son travail n'a pas été juste un travail d'un architecte, d'un entrepreneur en construction qui a rebâti les murailles. Ça a été cela. Et ça a été en fait la première phase de son travail qui a été accomplie assez rapidement à Jérusalem. Dans les premiers mois qui est arrivé, ça a été même un exploit, la vitesse avec laquelle la muraille de Jérusalem a été reconstruite. Mais la deuxième phase, c'est la reconstruction aussi du peuple. Réformer le peuple. Et vers la fin du travail de Néhémie, il a amené le peuple de Jérusalem à faire alliance avec Dieu, à renouveler l'alliance. Ce à quoi le peuple s'était déjà engagé à l'époque de Moïse, puis il y a des différents moments dans l'histoire du peuple de Dieu où l'alliance est renouvelée. Et il y a trois points spécifiques sur lesquels le peuple s'était engagé avant que Néhémie quitte Jérusalem et retourne à Suse, dans la capitale. Il y avait d'abord un engagement envers la famille, de conserver les familles pures, de ne pas faire de mariage mixte avec les nations étrangères, pour observer la loi de Moïse, et c'était des prescriptions positives, temporaires, donc d'éviter qu'Israël donc, se marie avec les autres nations, ça devait rester à l'intérieur de la nation. Ensuite, un engagement envers le sabbat, observer donc, garder le sabbat et tout ce qui vient avec, la sainte convocation au jour du sabbat. Et troisièmement, un engagement envers le temple, de ne pas abandonner la maison de Dieu, le lieu qui représente donc sa demeure, et de sacrifier ce qui était nécessaire à l'entretien du temple, de son personnel et les. Et on voit donc ce triple engagement dans Néhémie 10, verset 30, à 32. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Et au verset 39, ça dit, après qu'ils énumèrent tout ce qu'ils vont faire pour le temple, c'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Donc, engagement envers la famille, le sabbat et le temple. Néhémie donc repart au terme de cette réforme, assuse, confiant que ce qui est mis en place, ben, ça va subsister, le peuple s'est engagé solennellement, et il revient, on ne sait pas exactement combien de temps après, est-ce que c'est une question de mois ou d'années, au plus tard, ce serait vers 420 avant Jésus-Christ, donc 25 ans après le début que Néhémie soit venu à Jérusalem, donc ça serait le plus tard, mais ça pourrait être aussi peut-être une année ou deux après son départ, et donc il revient. Alors, Néhémie aurait quelque part entre une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Alors, on va lire progressivement le chapitre 13. C'est un assez long chapitre que j'ai divisé en trois portions. On va le lire, chacun de mes points, j'ai trois points, et correspond à une lecture qui correspond aux trois points d'engagement du peuple, qu'on va prendre dans l'ordre inverse. La première partie nous parle de comment Néhémie constate l'état de leur engagement face au temple. Le deuxième point, leur engagement face au sabbat. Le troisième point, leur engagement face à la famille. Alors, premièrement, donc, Néhémie 13, 1 à 14. L'abandon du temple. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam, pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les potiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres, chargés du service, s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. « Souviens-toi de moi !» Ô mon Dieu, c'est le refrain qui nous sépare les trois sections. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous savez, l'apostasie n'arrive pas du jour au lendemain. On ne passe pas à être solennellement engagé à garder le temple Et du jour au lendemain, sans qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, on a abandonné le temple. Ça se fait progressivement. C'est la négligence du secret. C'est comme l'analogie de la grenouille qu'on met dans l'eau bouillante. Si on la met instantanément, elle va sauter en dehors. Si on chauffe progressivement l'eau, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire et elle meurt. Et c'est pas tant... Le premier pas, c'est pas tant ce qu'on fait de pas correct. C'est ce qu'on néglige. C'est pas tant ce qu'on commet. C'est pas tant la présence du mal que l'absence, la négligence envers le devoir spirituel, le devoir que Dieu confie à son peuple. Le peuple, donc, a négligé son devoir, il a arrêté progressivement de soutenir l'œuvre, arrêté de soutenir les Lévites. Les Lévites sont retournés cultiver leur propre maison, leur propre jardin pour subvenir à leurs besoins, parce qu'on a négligé de mettre à part donc ce qui était nécessaire pour leur entretien. Et que Dieu nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Elle nous dit que comment Dieu va maintenir la moisson? Dieu pourrait très bien faire pleuvoir la manne du ciel. C'est pas comme ça qu'il a décidé que son église sera entretenue. L'église va être entretenue par ce qu'on va donner sacrificiellement. Et c'est important donc que les frères, les sœurs comprennent que bien qu'il incombe au ministre de la parole de prêcher la parole, ils doivent aussi vivre de cet évangile. Et on ne bâtit pas l'Église tout seul. Les membres ont une responsabilité. Et donc, c'est un rappel, c'est le rappel que nous devons faire aussi. On ne doit pas être des one-man show pour les pasteurs. On ne doit pas être développer, que l'Église développe une sorte de dépendance de nous où on essaie de tout faire, mais de faire prendre conscience aux frères et aux sœurs qu'ils ont une part à jouer, qu'ils ont à sacrifier leur vie, leur temps, leur argent pour entretenir la maison de Dieu. Autrement, elle va s'écrouler. C'est le moyen que Dieu désigne, un moyen ordinaire, mais qui va permettre la subsistance. Et Paul rajoute en disant cela qu'on ne se moque pas de Dieu, on va moissonner ce qu'on sème, mais si on ne sème pas, on ne moissonnera pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec cette négligence? Ça commence par la négligence du peuple qui n'a pas entretenu, qui n'a pas veillé, qui n'a pas sacrifié, qui a préféré lambrisser leur demeure plutôt que de sacrifier du superflu, du luxe pour l'investir dans le royaume. Mais ce n'est pas simplement qu'il va y avoir l'absence d'une bénédiction qui aurait dû être dans le temple. On voit aussi que l'ennemi est installé dans le temple. Si la maison n'est pas occupée par les ministres du Seigneur, ça va être d'autres qui vont l'occuper. L'ennemi s'y installe. L'objectif de Satan, il nous persécute de l'extérieur, mais il essaie aussi de ravager de l'intérieur, de s'introduire dans la maison. Et il y a un personnage qui est mentionné, donc, qui était installé dans le temple, Tobija. Qui est Tobija? Tobija est un ammonite. Donc, il est mentionné que les Ammonites, en raison de ce qui s'était passé au retour à l'Exode, qu'ils n'auraient pas leur place dans l'Assemblée. C'était un jugement ponctuel sur cette nation. C'est pas qu'il y a aucun qui aurait pu se convertir ou avoir le salut. Mais donc, il y avait cette interdiction. Et Tobija, dès que Néhémie arrive, on le voit qu'il fait partie de la troupe des hommes qui s'opposent à la venue de Néhémie. Chapitre 2, verset 10, Tobija est là et il se révèle comme un adversaire de Néhémie. Avec d'autres hommes, il s'est ligué, même pour attaquer Jérusalem, avec donc ceux qui ne cherchaient pas le bien de la nation, qui ne voulaient pas sa reconstruction, à qui c'était avantageux que les Juifs soient affaiblis. Il s'est ligué donc pour attaquer. Il a essayé d'attirer à moult reprises Néhémie dans des pièges, pour en lui faisant croire des choses qu'il voulait soit s'entendre avec lui, ou que des gens allaient l'attaquer, il fallait qu'il se réfugie dans le temple et pour faire mal paraître Néhémie. Il a même payé un prophète contre Néhémie, Néhémie 6, verset 12, pour lui prophétiser faussement des choses au nom de l'Éternel. Et là, Tobie a un loft dans le temple. C'est quand même assez extraordinaire. Cet homme qui a manifesté ouvertement une opposition, qui est un adversaire, est installé dans le temple, il a sa chambre. L'ennemi veut entrer. L'ennemi veut se faire une place dans l'église du Seigneur. Et nous sommes les gardiens du temple. Un des rôles des sacrificateurs, c'est de garder le temple. De le garder de quoi? Des intrusions. Ah, on voit Dieu qui a placé l'homme dans le jardin. Il a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'est le même verbe qui est appliqué aux sacrificateurs qui doivent garder le temple. Comment est-ce qu'Adam devait garder le temple? Il y avait un intrus dans le jardin qui est symbolique du temple. Le serpent. Il n'était pas là pour écouter la voix du serpent, la voix de l'ennemi. Il était là pour lui écraser la tête. Et le premier Adam a échoué. C'est le deuxième Adam qui va lui écraser la tête. Et nous, comme gardiens du temple, les pasteurs qui sont présents, les anciens, nous devons donc veiller. Parce que l'ennemi veut s'introduire de la même façon. Cherche à entrer dans l'église. Paul nous dit cela, que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout veut entrer dans l'église du Seigneur. Veut prendre la place, veut prendre l'autorité, veut parler à la place de Dieu. C'est ce que prend l'Antéchrist. Et c'est ce qu'il cherche à faire. Et il y parvient très souvent. La Bible nous parle d'églises qui sont devenues des synagogues de Satan, des lieux qui s'assemblent au nom de Dieu, mais qui sont des assemblées diaboliques parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui a autorité. C'est la parole des hommes. C'est l'alliance avec la fausse doctrine. Il s'introduit de d'autres façons, en falsifiant la grâce, en faisant croire, en confondant grâce et complaisance. Il faut la grâce, hein, il faut pardonner le péché. Et parfois, on confond et on commence à fermer les yeux sur le péché, à être complaisant envers le péché. Qu'est-ce qu'on fait sinon qu'on laisse Tobija de se faire un petit loft dans l'église lorsqu'on n'a pas le guts de pratiquer la discipline? Lorsqu'on laisse donc faire ses demeures. Pour garder l'église, il faut garder sa porte d'entrée. Il faut exercer une discipline d'église. Et les membres sont rassurés lorsqu'on fait ça. Les membres voient qu'il y a des gens, des bergers qui veillent et qui ne craignent pas le loup parce qu'ils aiment les brebis. Ils sont prêts à se battre avec le loup. Alors, ce qu'on voit dans l'exemple de Néhémie, Néhémie est un peu un type de Jésus, hein, un tupos, qui veut dire une image, une figure, comme Adam est une figure de celui qui devait venir, Romains 5, 14. Néhémie est une figure de Christ, hein, de quelqu'un qui part comme ça, qui vient au milieu du peuple, dans les ruines, qui va rebâtir le peuple, qui va réformer le peuple. Mais je pense aussi dans la colère qu'il fait dans le temple. On voit presque une similitude, une préfiguration de la colère de Jésus. Néhémie 13, versets 8 et 9, « J'en éprouvais un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y plaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. » Jésus aussi s'est fâché lorsqu'il est venu et qu'il a visité le temple et qu'il a vu que l'ennemi était dans le temple. Dans Jean 2, j'aime particulièrement le récit que Jean nous en fait, parce que contrairement aux autres évangélistes, Jean ne place pas cet événement-là à la fin de son évangile. Pourtant, c'est fait partie des événements vers la fin de la vie de Jésus, c'est pendant la dernière semaine, quand il vient à Jérusalem, n'est-ce pas, et qu'il fait le ménage dans le temple. Mais Jean le place au tout début de son évangile, au chapitre 2. Et je pense qu'il y a une raison théologique à cela, c'est qu'il nous montre qu'en commençant son évangile, Jésus est celui qui vient purifier la maison. Il vient purifier le peuple. C'est la maison de son père, puis il vient la réclamer. Même si ça arrive à la fin, et c'est comme s'il fait un montage inversé, il reconfigure un peu les événements pour nous donner un sens autres. Et on lit ceci dans Jean 2, 14 à 17. « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Soyons dévorés par le zèle de la maison de Dieu. Pas pour piquer des colères, faire peur au monde. Il y en a qui parfois prennent cet exemple-là pour justifier n'importe quoi, puis ça crée des coups de pied à la tribune. On en connaît des prédicateurs qui donnent des coups de pied sur les temps. On ne les connaît pas personnellement, on les a vus sur YouTube. mais pour des banalités, hein. En plus, piss it against the wall, c'était pas si grave que ça. question de traduction avec la vieille King James, là, si vous me demandez. Mais. Quand il y a des abus, quand on voit que l'ennemi est entré, il faut faire le ménage. Il ne faut pas faire des compromis, chercher l'amour des hommes. On a le droit de prendre autorité au nom du Seigneur, avec l'autorité de sa parole, pour garder l'ordre dans sa maison. Et cette autorité apostolique est confiée aux successeurs des apôtres, les anciens comme eux, 1 Pierre 5. Hein? Moi, ancien comme eux, Pierre dit ça, ce qui le mandat que Pierre a reçu de paître les brebis du Seigneur, il le confie aux anciens. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Celui auquel Jésus a dit, paie mes brebis, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si nous sommes dévorés par l'amour du Seigneur, si nous aimons le Seigneur, la preuve que nous l'aimons, c'est que nous aimons ses brebis, que nous gardons son Église. Deuxième point, nous voyons l'abandon du sabbat, à partir du verset 15. Après l'abandon du temple, donc l'abandon du sabbat. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnai des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Judas le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Judas et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ?» N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis-je ordonner qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat? Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. On a parlé du sabbat un peu plus tôt. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est un contexte particulier, contexte théocratique. Néhémie n'est pas seulement un pasteur, il est aussi une autorité civile. Il est là pour garder la loi de Dieu, mais il n'y a pas cette séparation comme on a. C'est pas simplement un royaume spirituel, c'est aussi un royaume terrestre. Ce qu'on voit aussi, c'est pas seulement des gens qui faisaient des œuvres de nécessité le jour du sabbat. Des gens qui ne tenaient aucun compte du sabbat, qui le profanaient, qui n'avaient pas de respect pour la parole du Seigneur. deux ans, on a reçu Joseph Piper, qui est venu nous enseigner un cours sur le culte, sur l'adoration. Et ça touche aussi un peu à la question du jour du Seigneur. Et dans des conversations, je ne pense pas que c'était pendant le cours, j'avais eu l'occasion de parler avec lui, puis il disait que les ordonnances créationnelles, vous savez, il y a 4 ordonnances créationnelles. On croit au respect de la vie, le caractère sacré de la vie. C'est pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. On croit au mariage et à la sanctification, la sainteté du mariage pour l'homme et pour la femme, tel que défini par le Créateur. Au travail, l'homme était placé avec un mandat de soumettre la création, de cultiver, de garder le jardin, de le faire pour la gloire de Dieu, et le sabbat. Aujourd'hui, on vit dans une culture de mort. Une culture qui célèbre la mort, l'euthanasie, hein, la mort heureuse, qui pratique l'avortement et de simplement s'opposer, de remettre en question la légitimité de l'avortement, c'est un crime haineux. Parce que ça peut troubler les sentiments de quelqu'un. Le faire sentir coupable, c'est inacceptable. Remettre en question l'autonomie d'une personne, l'autonomie de décider de son corps, c'est pas son corps, c'est le corps de quelqu'un d'autre dans son corps, mais son autonomie financière et ainsi de suite, ça c'est des vaches sacrées qu'on n'a pas d'autre chose. Dans une culture de mort, dans une culture de confusion sexuelle, confusion entourant le mariage, on a redéfini au Canada ce qu'est le mariage. On a rejeté la définition traditionnelle qui ne vient pas que de la tradition, qui vient de l'ordonnance créationnelle de Dieu, qui a donné un homme et une femme pour vivre dans un saint état, unis ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas juste le mariage qui a sauté avec le divorce, le remariage, l'adultère qui est permis, qui n'est pas un problème. C'est un problème peut-être moral, mais il n'y a aucun rapport civilement. Ça ne peut pas être une peine, ça ne peut pas être un crime. Mais on est beaucoup plus loin que ça. On est dans une confusion des genres. Aujourd'hui, un genre, c'est quoi? C'est une construction sociale, un genre. C'est pas lié à votre identité biologique, votre genre. Et si vous croyez à un genre binaire, homme-femme, vous oppressez les gens qui ont un genre beaucoup plus fluide. Et on dit ça, mais c'est ce qui est enseigné probablement ici, juste à l'Université Laval. Des professeurs qui enseignent ça à des jeunes, à une génération qui est confuse. Jésus parle de son temps d'une génération perverse et adultère. Je ne sais pas ce qu'il dirait de la nôtre. Il y a une confusion dans l'identité, ce qu'est un être humain, ce qu'est le mariage, ce qu'est la sexualité, ce que vaut la vie, le respect de la vie. On n'est pas une culture du travail non plus. On est dans une culture, une mentalité de on va en faire le moins possible puis donnez-nous en plus. Une mentalité souvent revendicatrice. Mais tout ça, et j'en reviens à ce que je voulais dire avec Joseph Piper, il dit cette culture-là n'apparaît pas d'elle-même, c'est pas la culture de la mort qui arrive en premier. C'est d'abord le rejet du sacré, le rejet de la transcendance, le rejet du sabbat. Et je trouvais que c'est une réflexion extrêmement intéressante. On commence par rejeter Dieu, de rejeter sa transcendance. On va continuer à accepter, à pratiquer une société qui a des valeurs judéo-chrétiennes. Les gens, hein, quand on a arrêter qu'il y a eu une influence culturelle à aller à l'église, à fermer les commerces le dimanche et ainsi de suite. C'est pas arrivé instantanément que le lendemain, c'était une culture de la mort, puis c'était une culture de confusion sexuelle. Mais dès qu'on retire la transcendance, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de l'opinion de chacun, bien, il y a une norme morale. Puis cette norme-là vient d'une personne morale absolue qui est Dieu. Quand on rejette le sacré et le culte qui est dû à ce Dieu, ben tout le reste va suivre. Il n'y a plus aucune façon de tenir les ordonnances créationnelles si elles ne reposent pas sur Dieu. si c'est pas, si Dieu n'est pas dans notre définition de l'existence, on tombe dans l'utilitarisme. On peut justifier l'avortement, on peut justifier l'euthanasie pour des raisons économiques, on peut justifier toutes sortes de mariages parce que c'est de la discrimination autrement, puis finalement, tout ce que les gens ont envie de faire, hein, chacun fait ce qui lui plaît. Bien-aimés, je suis conscient qu'on ne va probablement pas, en tout cas pas, c'est pas demain la veille, qu'on va réinstaurer une culture du sabbat dans le monde en général. Ce qu'on espère voir, c'est des conversions ici et là, et que par l'Évangile, des gens pourront revenir à cela. Mais si l'Église ne garde pas les ordonnances créationnelles, si l'Église ne garde pas le sabbat de Dieu, qui va le faire? Si nous-mêmes, on n'honore pas le sacré, si on n'honore pas ce qui est saint et les jours que Dieu a consacrés, le jour que Dieu a consacré, qu'on blâme pas le monde d'être rendu ce qu'il est. On a cette exhortation dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée. » C'est pas simplement de ne pas quitter une église locale, mais c'est « Ne négligeons pas le rassemblement de nous-mêmes. » N'abandonnons pas nos réunions, nos assemblées. C'est sûr que d'un mercredi soir à l'autre, d'un dimanche à l'autre, on ne voit pas toujours miraculeusement un effet, mais sur le long terme, cette persévérance par un moyen de grâce ordinaire, ça nous tient, vous ne pouvez pas savoir comment. Ça nous garde. Hein, c'est comme ce pasteur qui visite un paroissien, ça faisait 3-4 semaines qu'il n'était pas au culte. Ah, tiens, je vais lui faire une petite visite dimanche après-midi. C'est l'hiver, on est au Québec, donc il rentre, il frappe à la porte, le paroissien l'accueille, il est un peu mal à l'aise. Ah, monsieur le pasteur, oui, je suis content de vous voir, oui, j'étais bien occupé ces temps-ci. Bon, il l'accueille au salon, il s'assoit. Le pasteur ne dit pas un mot, regarde le feu de foyer. À un moment donné, il se lève, prend le tisonnier, puis enlève un des morceaux de bois des tisons du reste de la flamme. Il se rassoit, puis il regarde. Alors, le paroissien qui dit probablement qu'il veut me passer un message, alors regarde ça, puis après un certain moment donné, la flamme qui commence à s'atténuer finit par s'éteindre et ce tison finit par juste fumer. Hein, il se relève et il remet avec le reste et là il reprend. La flamme rejaillit. Ça ne brûle pas tout seul un morceau de bois. Hein? Et si on veut garder la flamme, on a besoin du corps. On est greffer un corps, un membre, tout seul, c'est pas autonome. On est fonctionnel. La vie chrétienne n'a pas été prévue par Dieu pour être vécue individuellement. Ça se vit dans un corps. Ne laissons aucune brebis s'égarer. Faisons attention nous-mêmes aussi pour pas juste tomber dans la mécanique répétitive, pasteur, de juste être présent. Hein, mais avec un cœur absent, avec un cœur froid. Entretenons cette flamme par les moyens ordinaires de grâce. Le repos que ça nous donne, la confession, la table du Seigneur, la prière. Ne nous laissons pas devenir stériles et froids. Et souvent, lorsque donc le jour du Seigneur est abandonné, c'est parce que le profit personnel devient plus important. Bien-aimés, les Tyriens sont à la porte. Ils veulent faire commerce avec nous. Il y a 1000 occasions. C'est très, très, très facile de se distraire, surtout dans la culture de divertissement dans laquelle on vit, de s'occuper, d'être trop occupé. Si nous ne nous battons pas, si nous nous attendons passivement, en pensant qu'on va avoir du temps à un moment donné pour y aller au réunion de prière, ou du temps pour lire la Bible, si nous ne prenons pas de ferme résolution pour être constant dans notre marche avec le Seigneur et son peuple, les Tyriens sont là. Ils vont finir par nous gagner pour faire commerce avec nous. Et Jésus dit ceci, une parole qui nous porte à réfléchir dans Luc 21. « Prenez garde à vous-même. » verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Vous savez, nos frères catholiques viennent de finir 40 jours de jeûne. Hein? Le carême vient de finir. Nos frères, pas nos frères, pardon, mais nos amis musulmans, eux, ils ont le ramadan. Les protestants, nous mangeons et nous buvons. Et nous sommes très heureux d'avoir été sauvés par un mangeur et un buveur, parce que la vie aurait été dolle si ça avait été Jean-Baptiste qui aurait été le sauveur du monde. Mais, comme vous, j'aime manger, j'aime boire, j'aime me réjouir, j'aime profiter de la vie. Et on n'a pas à se sentir coupable de cela, de vouloir goûter et profiter. Le Seigneur nous dit qu'il nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Mais il y a réellement un danger à notre confort. Que de s'apesantir. Par les excès. Et les excès, c'est pas juste là, de s'enivrer, mais c'est simplement de vivre dans une sorte d'opulence confortable. On a commencé dans la dernière année, mon épouse et moi, à pratiquer momentanément le jeûne, ce qu'on n'avait jamais fait dans notre vie. Mais ne serait-ce que pour faire mal un peu à la chair. C'est tellement bon de se priver... de réaliser combien c'est difficile, combien on dépend des choses qui de, pas juste du minimum, on dépend de notre superflu pour être heureux. Il nous en faut beaucoup pour vivre, on en veut beaucoup. Et on finit par se plaindre quand on a toujours tout ce qu'on veut, on n'apprécie plus grand-chose. Et de juste se priver, hein, c'est un moyen extraordinaire pour apprécier davantage quand on recommence à manger. Aussi pour éviter que nos cœurs s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Restez, veillez et priez. Veillez et priez. Et Calvin, quand il parle du jeûne dans son commentaire, il dit, pourquoi est-ce qu'on jeûne? C'est pas qu'on va davantage convaincre Dieu, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous convaincre nous-mêmes. C'est parce que notre prière est tellement froide qu'elle a besoin de l'ardeur d'un jeûne pour la soutenir. Et c'est dans ce sens-là qu'il interprète que Jésus dit que cette sorte de démon ou l'espèce démoniaque ne sort que par le jeûne et la prière. Parce qu'on est de faibles combattants qui arrêtons de lutter au moindre effort. On n'est pas obligé de tomber dans le piétisme où on pense que la joie de Dieu dépend de notre piété, que notre entrée au ciel dépend de notre piété. Mais la piété, elle est bonne. Et on doit être des hommes et des femmes pieux. Néhémie dit, n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? N'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ses malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Je ne sais pas quelle sera la fin... Comment va venir la fin du monde? Il y en a qui sont optimistes, qui croient à la progression continuelle du royaume, d'autres qui sont plus pessimistes. Mais je trouve que l'Occident regarde mal. Et il nous est demandé à nous d'être trouvés fidèles, à veiller, à prier, à être au poste, de ne pas s'endormir avec le reste de la société qui s'endort, de ne pas abandonner la maison du Seigneur, de ne pas abandonner les voies du Seigneur, ses commandements. Alors, ça commence par la négligence. Ne négligeons pas la maison de Dieu, le royaume de Dieu. Et finalement, l'abandon de la famille. Ce qui entre dans la religion, dans l'Église, se profile jusque dans les foyers également. Néhémie 13, 23, jusqu'à la fin du chapitre. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlait l'asdodien et ne savait pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns et je leur arrachai les cheveux et les fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles pour vos fils ni pour vous. » Fois quand je me trouve un peu trop rough dans mes interventions pastorales, je m'en vais lire Néhémie 13 et ça me conforte beaucoup. Non, mais quand même, tu sais, prends et gifle, saisis-toi, tire la barbe, les cheveux, les fais jurer. C'était des soins pastoraux, bien. Il faut vraiment interpréter ça comme de l'amour. Verset 26. « N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait béni. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat, le Horonite. Je le chassai loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. » C'est un Lévite marié avec des païennes. « Je l'ai purifié de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Notre confession de foi, à l'exemple de la confession de foi de Westminster, prend les lois civiles de l'Ancien Testament et elle dit de ces lois ont cessé depuis que Israël n'est plus un État. Les lois ont expiré en même temps, mais elles ont encore une équité générale. C'est-à-dire que ces lois-là étaient une application particulière de la loi morale de Dieu dans un contexte donné. Aujourd'hui, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus d'interdiction de mariage, donc inter-ethnique. Mais il y a une équité générale dans ce qu'on voit ici, c'est l'interdiction des mariages mixtes. C'est-à-dire entre croyants et non-croyants. Faire une alliance disparate. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, dit Jésus dans sa prière sacerdotale, mais de les préserver du malin. Et les préserver du malin, c'est les préserver des alliances avec le monde qui les amènerait à compromettre leur foi. Paul dit, c'est sûr que vous, en n'ayant pas de rapport avec les infidèles, ça ne veut pas dire que c'est de manière absolue. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est d'une part de ne pas avoir de rapport avec quelqu'un qui se dit frère puis qui vit comme un inconverti. S'il se dit frère, il doit être soumis à la discipline de l'Église. Mais c'est aussi de ne pas se mettre sous un joug étranger. De ne pas faire alliance. Et il nous a donné l'exemple de Salomon. Salomon même qui a été entraîné à cause de l'amour de ses femmes dans l'idolâtrie. Salomon qui était le plus sage, qui était un parangon de la gloire et une image du fils glorieux de David, une image de ce que le royaume de Christ va ressembler, une image petite, parce que Jésus dit qu'il y a ici plus que Salomon. Mais même dans toute cette gloire-là, qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Il a laissé son cœur s'appesantir par les excès du manger et du boire, et s'est laissé entraîner par une multitude de femmes, et il a servi des dieux étrangers. Lorsque les foyers de frères et de sœurs ne peuvent pas être clamés pour Dieu, ça nous indique que l'assimilation a fait des ravages. Il y a de nos frères, de nos sœurs qui se retrouvent dans des situations comme celle-là, mariés avec des non-croyants, parce qu'ils se sont convertis après leur mariage. Et on a des indications spécifiques dans l'Épître aux Corinthiens que si le non-croyant consent à habiter avec le frère ou la sœur, qui doit persévérer dans cette situation-là, chercher à préserver ce mariage et à essayer d'amener son mari ou sa femme au Seigneur. Mais le mari ou la femme incroyant n'a pas la première place. Dieu demeure Dieu. C'est Dieu qui a la première place. Mais il y en a parmi nos frères et nos sœurs qui se retrouvent dans cette situation-là d'une alliance disparate parce qu'ils ont été négligents. C'est triste lorsqu'on ne peut, lorsqu'on doit prier en cachette parce que notre mari ou notre femme est converti, ne supporte pas de nous voir lire la Bible ou invoquer le nom de Dieu. Lorsqu'on ne peut pas instruire nos propres enfants dans la foi. Dans ces situations-là, l'espérance du salut est à une génération près de s'éteindre. Et c'était dans cet état-là, donc, que Néhémie retrouve les familles d'Israël, même les chefs en Israël, les sacrificateurs qui ont négligé, qui n'ont pas fait grand cas des ordonnances de Dieu, de ses lois, de ne pas faire alliance avec ceux qui ne le connaissent pas, avec ceux qui ne le craignent pas. Gardons-nous nos maisons, gardons-nous nos foyers. J'ai intitulé cette prédication « Semper Reformanda ». Je trouve que le terme s'applique, c'est le principe donc de la réforme, une fois qu'on a réformé l'Église et qu'on a eu du succès, qu'on a progressé, qu'on a établi des réformes, ben c'est encore à refaire. Ça sera à refaire la même chose ou d'autres aspects qui se sont déformés en cours de réforme. C'est jamais terminé. Et c'est important donc pour les serviteurs du Seigneur de se rappeler ce principe. Semper Reformanda. Tout ce que Néhémie a fait est à refaire quand il revient. Et j'aimerais rappeler trois points en terminant, trois points d'application. Premièrement, nous ne devons pas être surpris qu'il y ait un penchant naturel des institutions, comme l'Église, comme la famille, vers l'infidélité. Depuis Genèse 3, il y a une inclinaison à cause de la chute. Les choses se détériorent, les institutions tendent à se corrompre, à tout. À certains moments dans la cour d'existence d'une institution, il faut opérer une réforme, il faut un ménage. Et donc, il ne faut pas être surpris de cela. Lorsqu'on s'attend à ce qu'il y ait de l'impureté qui s'infiltre dans l'Église, dans les foyers de nos frères, de nos sœurs, de la tiédeur, ça nous arme, ne serait-ce que psychologiquement, mentalement, à pas être jeté à terre, à pas être découragé, à pas tomber à bras raccourcis sur les gens avec de l'amertume, de l'impatience. Il y a des moments où je pense qu'il faut se fâcher, mais en sachant que c'est normal jusqu'à un certain point, ça nous prépare comme pasteur à prendre soin. Deuxième remarque, ce que Dieu nous demande dans tout cela, c'est d'être fidèle. Ce n'est pas le résultat final. Ce n'est pas le nombre de conversions. Ce n'est pas la durée des années qu'aura subsisté l'Association des Églises réformées baptistes qui va compter. C'est quand le temps qu'on va avoir servi, serons-nous trouvés fidèles. Le fruit, le résultat lui appartient. Quand on prépare un message, hein, je pense que c'est John MacArthur qui disait « Notre travail, nous, c'est pas l'étendue, c'est la profondeur. Nous, on doit creuser, aller chercher la profondeur et l'étendue, c'est-à-dire l'impact que ça aura. Le nombre de personnes qui seront touchées par ce message, ça appartient à Dieu. Concentrons-nous donc sur la profondeur. » Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il y a quelques années, M. Perron, vous nous aviez donné, je pense que c'est Kent Hughes, le bouquin.
Liberating Ministry from the Success Syndrome.
Libérer le ministère du syndrome du succès. Ça a été une grande bénédiction pour moi de lire ce livre-là, parce qu'on veut toujours être... Hein, the guy, le Spurgeon de notre époque. Écoutez, on sert des églises qui ne sont pas appelées, qui ne cherchent pas à être populaires parce qu'on n'a pas un message qui attire. Et si notre désir, c'est d'être populaire, on risque de flirter avec l'infidélité parce qu'il y a une démangeaison chez les pécheurs d'entendre des choses agréables, de se faire flatter. Mais que nous puissions être trouvés fidèles et être libérés du syndrome du succès. Et troisième et dernière remarque et application, ce que nous faisons n'est pas en vain. À vue humaine, on peut penser que c'est en vain. On peut penser que Néhémie revient, ils n'ont rien compris, ils se sont engagés, tout ça est perdu. Je m'en retourne, crevé, vous n'avez rien voulu savoir, moi je m'en vais vivre dans mon palais royal. C'est pas en vain d'une part, parce que l'Écriture nous dit nous ne perdrons pas notre récompense. C'est pas en vain non plus parce que Dieu fait son œuvre malgré tout. Dieu, nous ne le comprenons pas. C'est une des choses qui est bénéfique, je trouve, de la doctrine de l'incompréhensibilité divine et de l'impassibilité divine, c'est que Dieu n'a pas la même logique que nous. Et donc, on doit, si on croit qu'il est souverain, ça doit finalement nous garder, dire, je ne comprends pas où ça mène, je ne comprends pas pourquoi il y a ces épreuves-là, ces conflits-là dans l'Église, pourquoi est-ce que ces reculs, ces revers. Mais Dieu est souverain. Et ce que nous faisons n'est pas en vain. Ça peut paraître à court terme être perdu, mais ce n'est pas perdu. Et l'œuvre de Dieu progresse, et preuve en est que ça fait 2000 ans que l'Église menace de faire faillite, de s'éteindre, de fermer. Et pourtant, les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elles. À cause de celui qui la garde. Il la garde au travers de nos faibles ministères. En réjouissons-nous. Alors Néhémie, lorsqu'il revient devant ces trois fléaux, devant ce temple abandonné, ce sabbat profané, ces familles corrompues, il ne tombe pas dans le pessimisme, dans le cynisme, parce qu'il ne met pas sa confiance dans des hommes. Il ne met pas sa confiance en lui-même. Il ne se fait pas juste un petit pep talk à lui, mais il se tourne vers Dieu et il dit « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » C'est pas là où il faut placer notre confiance. Abandonnons-nous entièrement à Dieu dans une pleine confiance, une pleine assurance, sa grâce est suffisante. Prions. Amen. Notre Père, notre roi, notre Dieu, il est bon de te servir, il est bon, Seigneur, d'appartenir à ton peuple, à ton alliance. Mais en même temps, Seigneur, qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant, Seigneur, pour cette œuvre-là? Seigneur, nous ne sommes pas suffisants. Ce travail est trop difficile pour nous. Et ce travail est, à vue humaine, impossible. Jésus lui-même dit que aux hommes, c'est impossible. Ils ne peuvent pas être sauvés. Mais à Dieu, tout est possible. Seigneur, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si nous avons persévéré, c'est à cause de toi et nous voulons t'en donner gloire. Et Seigneur, nous voulons prendre courage. Malgré notre petitesse, malgré notre faiblesse, et même nous nous plaisons dans notre état faible parce que nous nous appuyons sur toi. Et nous voyons ta main qui nous soutient. Nous voudrions que ta main fasse plus encore, nous voudrions voir de manière plus évidente, plus abondante, des œuvres qui manifestent la puissance de ton esprit. Nous voudrions voir le réveil. Mais Seigneur, s'il ne te plaît pas de nous accorder le réveil, que ta volonté soit faite. Nous avons confiance que tu es le Dieu souverain, que tu es à l'œuvre. Que tu œuvres sur des ruines ou que tu œuvres sur un peuple rebâti. Que ton peuple parfois vacille, mais tu le gardes, tu le relèves, tu nous gardes. Oh Seigneur, notre confiance est en toi. Merci de pardonner nos manquements, merci de pardonner nos négligences. Nos négligences de ta maison, nos négligences envers tes ordonnances, envers ton royaume. Pardonne-nous parce qu'on ne fait pas toujours passer ton royaume en premier. On cherche souvent, Seigneur, notre vie en premier. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas prendre toujours au sérieux ce qui est sacré. Ton nom, ton saint nom, ton jour, le culte. Et tous les moyens de grâce que tu nous donnes pour qu'on garde notre âme en santé. Qu'on se garde comme peuple. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos négligences familiales, nos négligences du culte, nos infidélités envers nos épouses. Pardonne-nous, Seigneur, de notre paresse spirituelle dans nos foyers, d'y laisser trop souvent entrer le monde. Oh Seigneur, nous appuyons sur ta grâce. Tu es le Dieu qui pardonne, qui restaure. Nous avons confiance, Seigneur, en toi seul pour continuer. Merci pour ta parole qui fait du bien à notre âme. Merci, Seigneur, parce que tu construis ton peuple et tu vas le garder jusqu'à la fin. Seigneur, reçois notre adoration, notre amour et bénis tes enfants réunis. Que ta parole agisse dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle puisse nous fortifier, nous renouveler dans notre vision pour te servir encore. Au nom de Jésus-Christ, le bâtisseur de l'Église, nous prions.
Amen. Amen.